Il est 8h. Belle journée à tous sur Europe 1. La suite de la matinale avec Anthony Favalli.
Dimanche 15 mai, il est tout juste 8h. Bonjour et bienvenue dans votre matinale week-end. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, c'est Lamia El-Arrache, candidate aux législatives à Paris, soutenue par la Fédération PS locale, mais qui n'a pas été investie par la NUP, la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Sa candidature est donc considérée comme dissidente. Elle fera face à l'insoumise Danielle Simonet dans la 15e circonscription de Paris. Et puis à 8h20, ce sera l'heure de votre débat face à Bigot. Mais avant de démarrer notre programme, voici les titres de votre matinale. À la recherche de la chef idéale, la chef de gouvernement bien sûr, puisque selon le JDD, Emmanuel Macron veut une femme au poste de Premier ministre. 31 ans après sa nomination à Matignon, Édith Cresson réagit, elle dénonce le machisme de la classe politique et souhaite bien du courage à celle qui pourrait succéder à Jean Castex dans les jours qui viennent. L'Occident a déclaré une guerre totale et hybride à la Russie. Ce sont les mots de Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. Les conséquences sont ressenties partout dans le monde, sans exception, ajoute-t-il. Le chef de la diplomatie russe qui s'est exprimé lors d'une conférence de presse ces dernières heures. La désescalade est-elle encore possible? On tentera d'y répondre dans cette émission. Avec l'arrivée des beaux jours, le gouvernement relance sa lutte contre les rodéos sauvages. Une lutte à grand renfort de communication. 700 opérations de contrôle sont lancées à travers tout le pays ce week-end. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, prévient, il veut la saisie systématique des véhicules et l'interpellation des auteurs. Illustration avec notre reportage dans votre matinale week-end. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Bonjour à tous. Lamia El-Arrache, bienvenue. Merci d'être avec nous.
Bonjour.
Vous êtes encore peu connu. Et pourtant, on ne parle que de vous et pas seulement à Paris. Parce que il y a une querelle entre vous, Jean-Luc Mélenchon et les siens. Alors, bienvenue. Moi, je vous regarde et je trouve que vous avez un visage de symbole.
Écoutez, le symbole, c'est celui de la lutte contre les injustices, et notamment dans le cadre actuellement de cette campagne législative qui commence. Oui, je crois que ce qui est en train de se passer dans la 15e circonscription de Paris va faire l'objet à la fois d'une lutte déterminée sur le terrain et aura une incidence effectivement sur les prochains
temps. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'image d'un PS qui se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme ou dans l'extrême gauche?
Je ne sais pas si le PS se bat pour ne pas sombrer dans le radicalisme
ou
l'extrême gauche. Moi, en tout cas, je suis socialiste. Je l'étais hier, je le suis aujourd'hui et je le resterai.
Dissidente?
Je ne suis pas dissidente.
Vous l'entendez?
Je l'entends, j'ai entendu l'introduction qui a été faite. Aujourd'hui, il y a eu un accord dans le cadre des élections qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, lors des présidentielles. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y avait un principe de base qui était posé dans cet accord. C'était que les députés sortants, qui étaient favorables à l'union de la gauche, puissent être réinvestis. Ce qui était mon cas. Je suis la seule députée sortante de France à ne pas être investi, et c'est quelque chose qui me semble injuste et pas acceptable.
Alors, il faut expliquer. Pour les prochaines législatives, Jean-Luc Mélenchon a imposé une de ses insoumises, Danielle Simonet, qui interviendra tout à l'heure à 9h. Vous n'appréciez pas. Pourquoi? Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant?
Écoutez, au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'accord de base, c'était tous les députés sortants qui le souhaitent sont réinvestis. Il y a un autre sujet qui se pose aujourd'hui. Les électeurs, sur ma circonscription, ont voté il y a moins d'un an. Ils ont voté et m'ont permis de devenir leur député. J'ai gagné avec plus de 14 points d'avance l'année dernière.
Contre elle?
Et j'ai gagné contre Danielle Simonet en 2021. Danielle Simonet s'est présentée en 2012 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a perdu. Elle s'est présentée en 2017 sur la 6e circonscription de Paris. Elle a à nouveau perdu. Par opportunité
oui,
électorale.
Mais là, le soutien de Jean-Luc Mélenchon.
Elle s'est présentée sur la 15e, elle a à nouveau perdu. Et aujourd'hui, on vient expliquer qu'on va investir une Danielle qui a perdu 3 fois face à une Lamia qui a gagné 1 fois. C'est incompréhensible.
Oui, mais chez vous, lors du premier tour de l'élection présidentielle, il faut rappeler les chiffres, Emmanuel Macron obtenait 24%, Jean-Luc Mélenchon 46% et le PS 2,44%. Donc vous êtes perdu, vous avez perdu vous aussi.
Évidemment, je veux dire, on ne peut pas se réjouir du score qui a été le nôtre lors de l'élection présidentielle. Toutefois, je crois qu'il est quand même important de rappeler un certain nombre de choses. Je pense que notamment, il n'est pas représentatif de ce que pèse le socialisme aujourd'hui dans ce pays. Nous sommes à la tête d'un très grand nombre de collectivités locales.
D'accord, mais il faut qu'il le monte quand il y a des élections. quand il y a des élections. Alors, il ne le montre pas. Mais ça veut dire que vous avez été sacrifié ou Olivier Faure a cédé?
Je ne sais pas si on peut dire sacrifier ou céder. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ce que je constate, c'est que dans cet accord, je suis la seule députée socialiste, je suis la seule députée de toute la gauche sortante à ne pas être reconduite. Ça, c'est un fait. Ensuite, le Parti socialiste, réuni en Conseil national jeudi dernier, a voté à l'unanimité une résolution qui me soutient et qui demande à la France insoumise de revoir sa position.
Donc,
sur cette circonscription.
Ça veut dire que Olivier Faure, qui a signé l'accord, qui vous a sorti, vous soutient?
Il s'est exprimé publiquement.
Il a dit qu'il vous soutient.
Il m'a dit qu'il a dit publiquement qu'il me soutenait. Il a dit publiquement qu'il fallait réparer l'injustice sur cette circonscription.
Mais l'injustice, c'est lui qui l'a commise avec Jean-Luc Mélenchon. On ne comprend pas. C'est plein de contradictions. Je sais bien que la politique, c'est le spectacle des trahisons, des reniements, des changements de maillot. Mais alors là.
Alors ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je défends. Je crois que les gens, ils veulent de la clarté en politique. Et pour ma part, j'estime aujourd'hui représenter une nouvelle génération de politiques qui a envie de faire les choses autrement.
Oui, mais qu'est-ce que vous demandez alors?
Ce que je demande aujourd'hui, c'est que la sortie des urnes qui a eu lieu il y a moins d'un an, le suffrage qui s'est exprimé il y a moins d'un an, soit respecté.
Mais elle préfère le résultat
de la présidentielle.
Dernier.
Mais encore une fois, elle a perdu en 2012, elle a perdu en 2017, elle a perdu en 2021.
On ne se répète pas.
Donc, le coup, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que moi, je me présente, je suis la candidate légitime de l'Union de la gauche.
Est-ce que vous tiendrez, malgré les critiques, malgré les pressions, est-ce que vous avez les épaules, si je me permets, pour résister?
Écoutez, vous avez raison de me poser la question. C'est la preuve, effectivement, qu'on ne se connaît pas, puisque je suis quelqu'un de déterminé. Moi, je me suis toujours battue pour mes valeurs, contre les injustices, pour mes idées. Et c'est ce que je vais faire dans le cadre de cette élection. Si vous me permettez, Jean-Pierre Cabache, juste un petit mot là-dessus, je crois que c'est important. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on veut substituer au résultat des urnes, il y a moins d'un an, un jeu, une manipulation, parce que c'est comme ça que me la décrivent les électeurs, qui tous les jours me disent « Madame Elarage, Lamia, j'espère que tu vas te présenter. Lamia, j'espère que vous allez vous maintenir. Lamia, tout ça ne nous convient pas, on ne comprend pas. »
Alors, Lionel Jospin, qui d'habitude est mesuré, et puis qui est sorti du jeu politique, il est intervenu pour vous soutenir, parce qu'il dénonce une décision, je le cite, « injuste », et il la condamne pour des raisons d'éthique.
Tout à fait.
Et il paraît qu'il a même écrit lui-même à Jean-Luc Mélenchon, si je me souviens bien, qui a été son ministre, pour que vous soyez maintenu. Et il y a eu une réponse?
Il n'a, je crois, pas eu de réponse. Il s'en est exprimé, effectivement, quand il est venu me soutenir. Lionel Jospin, c'est l'architecte de l'Union de la gauche depuis les années 70. Personne ne peut lui enlever ni cette légitimité-là, ni cet attachement qu'il a à l'Union de la gauche.
Et lui, il a décidé de vous accompagner.
Et malgré ça...
D'aller distribuer des tracts et faire les marchés.
Exactement. Il m'a dit qu'il me soutiendrait jusqu'au bout parce qu'il estime que cet accord comporte une injustice, c'est celle concernant ma circonscription.
Oui, mais il n'a pas lu ce que dit de lui Dominique Simonnet parce qu'elle se dit sereine et moqueuse. Elle ironise sur Lionel Jospin. On ne le connaît plus. Et il ne parle plus à grand monde.
Est-ce
que vous remarquez quand vous vous baladez avec lui dans Paris?
Absolument pas, puisque on a même eu du mal à arrêter le marché quand on est allé ensemble au marché de la Réunion dimanche dernier, en plein cœur du 20e, puisque les gens s'arrêtaient, l'interpellaient, regrettaient qu'il se soit retiré de la vie politique, regrettaient qu'il n'ait pas pu aller plus loin, le remercier pour ce qu'il avait fait pour le pays.
Et Lionel qu'est-ce qu'on Jospin, disait? Qu'est-ce qu'on lui disait? Salut Lionel.
Bonjour Monsieur le Premier ministre. Hein, la plupart des gens lui disaient « Bonjour Monsieur le Premier ministre » ou « Bonjour Monsieur Jospin ». C'est le signe aussi de la figure de grand homme d'État qu'il est et qui continue à être. Pour moi, c'est quelqu'un que j'admire énormément et qui est extrêmement respectable, qui a fait énormément de choses pour ce pays. Et je crois qu'il mérite un certain respect.
Donc lui est avec vous. Mais quand on le croise ou quand elle le croise, Danielle Simonetti, elle l'a vu, etc., elle lui dit « Monsieur le Premier ministre ».
Absolument
etc.
pas. Je crois que vous avez vu l'extrait vidéo quand elle le croise sur le marché. L'AFP nous accompagnait ce jour-là. Elle l'a hélé en disant « Et Lionel ». Voilà,
elle,
je crois que ça
aussi... peut-être bien.
Elle ne le connaît absolument pas. Je crois que là aussi, c'est le signe de ce qui nous différencie avec Danielle Simonet.
Oui, qu'est-ce qui vous différencie?
Je suis quelqu'un...
Et deux.
Moi, je suis quelqu'un de respectueux des institutions. Je crois que quand on veut agir pour nos valeurs, pour le camp du progrès social, il faut être en capacité de dire les choses clairement, de s'opposer en apportant des alternatives, de respecter les gens. Et là-dessus, il y a des différences fondamentales avec mon adversaire.
On ne peut pas dire le contraire.
On ne peut pas héler les gens qu'on ne connaît pas, notamment quand ils ont été Premier ministre.
On va prendre des exemples. Sur la sécurité, qu'est-ce qui vous distingue d'elle?
Vous voyez, par exemple, là, à l'instant, on était en train de dire qu'il y avait énormément de rodéos urbains en ce moment et qu'il était urgent d'agir. Moi, j'ai défendu à l'Assemblée nationale le fait de lutter plus fermement contre ces rodéos motorisés. J'ai demandé la mise en place du contrôle technique des deux roues motorisées parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, qui sont très nombreux dans ma circonscription dans le 20e, les gens qui en pâtissent le plus de ces problématiques de sécurité, c'est les quartiers populaires.
Et elle a fait la même chose ?
C'est pas tout à fait le sens de son engagement. Alors, moi, je défends le fait de dire que la police municipale doit pouvoir agir dans les quartiers. La police nationale doit être renforcée en termes d'effectifs, de moyens et de façon d'agir.
Ça, c'est la sécurité. Vous êtes spécialiste en matière de santé. Sur la laïcité, par exemple, j'ai vu qu'à Grenoble, demain, à la demande du maire vert Éric Piolle, le conseil municipal va se prononcer pour ou contre le burkini dans les piscines. Si le même débat avait lieu au Conseil de Paris, où vous siégez, vous aussi, comme elle, qu'est-ce que vous voteriez ?
Écoutez, moi, je regrette que sur les questions de... Quand on parle de la question des droits des femmes, on la ramène à la question du burkini. Ce sujet, il est beaucoup plus global. Le burkini, aujourd'hui, à mon sens, est un faux débat. C'est un faux nez qui vient cacher les vrais sujets, qui sont ceux du pouvoir d'achat, qui sont ceux du pouvoir de vivre des Françaises et des Français. La loi telle qu'elle existe aujourd'hui suffit. Et pour ma part, je ne suis pas favorable à ce qu'on puisse remettre au cœur du débat public ce genre de
problématique. Mais vous ne répondez pas à la question. Si c'est présenté...
Je viens de vous le dire.
Je ne suis pas favorable
à ce qu'on ouvre ce débat-là. Et
à ce qu'on trouve le débat, mais sur le fait de mettre des burkinis quand on va à la piscine et peut-être même sur les plages, qu'est-ce que vous dites ? Oui, on a le droit ou non ?
Je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable. J'estime qu'aujourd'hui, il y a d'autres débats.
Pas favorable à quoi ?
Au burkini. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des débats plus importants qui doivent être posés sur la table. Et sur les questions des droits des femmes, pardon, parce que c'est de ça dont on parle, je crois qu'il est beaucoup plus important aujourd'hui de parler de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, de parler de la lutte contre les violences faites aux femmes, plutôt que de systématiquement ramener ce débat-là à celui que vous venez d'évoquer.
Oui, mais c'est le conseil municipal d'une ville. Ça va servir de précédent.
Vous remarquerez que ce n'est pas le cas de Paris.
D'accord, peut-être pas encore, parce que ça peut servir de précédent. Et en tout cas, ça donne un débat passionné. Et puis l'association qui est favorable au burkini et au port du voile hijab pour les footballeuses dit c'est comme argument mon corps, mon choix, mon maillot. Et pour les contres, j'ai vu qu'on dit la France est issue de la Révolution française et en mai 68, nos mères se battaient pour brûler leur soutien-gorge. Maintenant, on se bat pour s'habiller comme les Afghanes. On sait de quel côté, on a compris de quel côté vous êtes vous-même. Je reprends ma question. Est-ce que vous êtes sûr ? Parce qu'il y a tellement de pression et tout le poids, à la fois aujourd'hui électoral, etc., des mélenchonistes et en même temps les contradictions que vous avez encore montrées du Parti socialiste ou ce qu'il en reste avec à la tête Olivier Faure, de quel côté vous êtes et est-ce que vous pouvez résister ?
Et bien sûr que je peux résister, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Vous savez, moi je suis quelqu'un de très déterminé, de très apaisé. J'ai une vie familiale, j'ai deux enfants en bas âge, j'ai une vie professionnelle, je suis pharmacienne de formation, je suis juriste en droit de la santé. J'ai la chance d'être quelqu'un, j'estime, accompli. Donc cette bataille-là, elle est pour moi dans le sens de la justice.
Mais vous savez...
Qu'est-ce qu'on a envie de défendre ? Et je crois... que quand on croit en quelque chose, on va jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est le sens de ma candidature qui ira évidemment jusqu'au bout.
Oui,
il n'y a aucun débat là-dessus.
Vous savez qu'on entend beaucoup les politiques dire « on va jusqu'au bout, puis ils craquent encore de route ». Ce ne sera pas votre cas.
Il n'y a pas beaucoup de politiques que je connais, en tout cas dans mon entourage, qui craquent face à la pression que vous évoquez. Et qui là aussi, si vous me permettez juste une petite incise, est aussi révélatrice de la façon de faire de la politique. Moi, je ne fais pas de politique dans la violence. Je ne fais pas de politique dans l'outrance. Je ne fais pas de politique en invectivant les uns et les autres.
À qui vous en voulez le plus ? À Mélenchon ? À Faure ?
Le débat, il se pose pas en ces termes-là. Je crois que du côté de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, il y a une responsabilité importante dans la situation qu'on est en train de vivre. Ils ont fait le choix dans cette circonscription de préférer une Danielle qui a perdu 3 fois à une Lamia qui a gagné une fois.
Vous l'avez dit tout à l'heure, merci d'être venu. Peut-être vous allez vous croiser sur les marchés, vous allez distribuer les tracts tout à l'heure. Danielle Simonet, je le rappelle, va répondre à 9h avec Anthony. Bonne journée. Et à bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Merci à vous Jean-Pierre et merci à votre invité Lamia El Haraj. Restez avec nous dans votre matinale week-end. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukavski.
Dans le nord de... de l'État de New York a fait au moins 10 morts, en majorité des Afro-Américains hier. Le tueur a diffusé son crime en direct sur les réseaux sociaux. Le FBI enquête sur un crime qu'il qualifie de raciste. L'assassin présumé, un jeune homme blanc de 18 ans, a été arrêté sur place. L'Ukraine remporte l'Eurovision. Favori, le pays s'est imposé devant le Royaume-Uni et l'Espagne grâce au vote des téléspectateurs qui ont plébiscité le groupe Kalush Orchestra avec son titre Stefania, mêlant hip-hop et musique traditionnelle. Un sacre félicité par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Hommage à Emiliano Sala hier soir sur la pelouse de Nice. Une minute d'applaudissement a été respectée avant le match contre Lille en mémoire du footballeur argentin décédé en 2019 lors d'un accident d'avion. Mercredi, une partie des supporters niçois avait lancé un chant abject ciblant l'ancien attaquant de Nantes.
Votre matinale week-end continue dans un instant avec face à Bigot et face à Guillaume Bigot. Aujourd'hui, c'est Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. On parlera du futur Premier ministre, ou plutôt de la future Première ministre, dois-je dire, puisque c'est dans cette direction que tente à chercher l'Élysée. Restez avec nous dans votre matinale week-end, on revient dans un instant.
Votre matinale info sur Europe 1.
Anthony Favalli.
De retour dans votre matinale week-end, c'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Anthony Favalli.
Politologue, merci d'être sur ce plateau avec nous. Face à vous ce dimanche, c'est Gabrielle Cluzel aujourd'hui, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonjour à vous Gabrielle. Une demi-heure pour débattre des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 15 mai. On va commencer avec cette question. Une deuxième femme sera-t-elle nommée à Matignon? C'est ce qui se dit dans l'entourage proche du chef de l'État, alors que la démission officielle du gouvernement se fait toujours attendre. Édith Cresson, seule femme Premier ministre en France de mai 91 à avril 92, s'exprime aujourd'hui dans le JDD. Elle dénonce le machisme de la classe politique. On en parle avec vous Elisa Lukavski. Édith Cresson qui souhaite même beaucoup de courage à celle qui pourrait lui succéder.
Oui, celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Édith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des politiques. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, eh bien, c'est que le faire serait prendre un risque, car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes sont plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon, elle répond « Je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra beaucoup de courage ».
Bien, ce sera, j'espère que c'est noté pour la potentielle première ministre qui va succéder à Jean Castex. On parle de Marisol Touraine, Catherine Vautrin ou Elisabeth Borne. On va en parler dans quelques minutes, mais avec vous, Guillaume Bigot, je voudrais tout d'abord revenir à cette question. 74% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron nomme une femme premier ministre. Comme dit Édith Cresson, ce ne sont pas les Français qui sont machistes, mais la classe politique.
La classe politique qui a imposé une règle de parité. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur signe de machisme. Je pense que ça fait partie des points de passage obligés, des mantras médiaticaux de la classe dirigeante, de répéter que l'homme blanc est méchant, qu'il n'aime pas les femmes, qu'il ne veut pas les promouvoir, qu'il se raille des femmes dès lors qu'elles sont en politique. J'ai un avis tout à fait contraire. Je pense que le pouvoir n'a pas de sexe, comme il n'a pas d'âge. Quand le pouvoir d'Indira Gandhi s'impose, quand le pouvoir de Margaret Thatcher s'impose, quand le pouvoir d'une Angela Merkel s'impose, très rapidement, les gens ne s'intéressent plus du tout à leur genre parce qu'elles sont des chefs naturels leur genre ne s'impose pas.
Là vous avez le sentiment qu'on essaye de cocher des cases, là, clairement?
Oui, parce que c'est une discussion complexe qui fait que je serais étrié en 15 secondes parce que voilà, je ne correspond pas, si vous voulez, à toutes les petites phrases de mantra qu'il faut dire. Parce que les femmes gouvernent différemment, elles sont plus gentilles, elles écoutent plus, elles sont plus douces, elles sont plus proches de la nature, et autres salmigondis. Je pense que le pouvoir, il est plutôt masculin, mais qu'on a une dose de masculin et de féminin en nous, et que les femmes qui sont attirées par le pouvoir, elles ont plutôt disons, un comportement un peu masculin. C'est le cas des femmes dont je parlais tout à l'heure, dont personne, mais aucun de leurs collaborateurs, elles ont fait la guerre en plus, pour beaucoup d'entre elles. Jamais personne n'aurait imaginé dire qu'elles étaient des femmes ou oser mettre en avant le fait qu'elles étaient des femmes. Elles étaient des chefs. Pointe à la ligne, qu'elles étaient femmes, qu'elles étaient jeunes, qu'elles étaient âgées, qu'elles étaient brunes, qu'elles étaient blondes, qu'elles étaient noires, qu'elles étaient jaunes, qu'importe. Le pouvoir n'a jamais ni sexe ni couleur. C'est une idée wokiste, c'est une idée à la mode, parce que c'est un gadget, si vous voulez, qui permet de faire croire qu'on fait de la politique alors qu'on n'en fait plus depuis 40 ans, puisque l'Europe et la mondialisation s'occupent de tout.
Alors on a une chef sur ce plateau, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de devoir aujourd'hui cocher des cases pour choisir un Premier ministre et donc une Première ministre, puisque c'est vers cela que se dirige l'Élysée.
Ça me semble ridicule et dommageable. En fait, c'est un signal symbolique qu'on veut envoyer qui n'a pas de sens. Que vous allez vous faire opérer quand vous êtes malade, et la France est malade aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est un bon chirurgien, vous moquez de savoir si c'est un homme ou une femme. C'est une mode qui vient des États-Unis. Vous savez que Joe Biden a nommé comme porte-parole Karine Jean-Pierre. Alors, tout le monde a insisté sur le fait qu'elle était femme, noire, lesbienne. Mais en fait, en réalité, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est est-ce qu'elle est un bon porte-parole, point. Et aujourd'hui, je crois que les Américains sont, et notamment les femmes américaines, sont plus inquiètes de la pénurie de l'infantile et qui accusent du reste de Biden de ne pas avoir beaucoup agi, d'inaction sur le sujet, que de savoir quelles sont les caractéristiques, est-ce que sa porte-parole coche toutes ces cases. C'est effectivement une démarche woke un peu ridicule. Moi, je trouve qu'Edith Cresson, c'est pas très honorable de sa part de dire ça, parce qu'il ne faut pas que chaque femme se réfugie derrière son caractère féminin, derrière le machisme pour excuser ses difficultés. Tout le monde rencontre des difficultés et ce n'est pas parce qu'on est une femme que c'est nécessairement cause de ça.
Et on l'a vu avec Mme Pécresse, elle pédale dans la choucroute, mais c'est parce qu'elle est une femme, parce que tout le monde est raciste.
Alors il faut reconnaître certaines ont le mérite de ne pas se réfugier vers cela, et moi je trouve que c'est assez grand. Jean Castex, c'est parce qu'il était provincial, c'était de la ploucophobie. Non, mais vous voyez, il y a un moment, tout le monde pourrait se trouver des excuses.
Alors, les gens parlaient de bonhomie pour Jean Castex.
Mais le fait qu'un chef ne se trouve pas d'excuses est déjà un signe, si vous voulez. Quand Lionel Jospin est battu, il dit « je suis battu, je me retire ». Quand on entend les uns et les autres amener leurs fraises alors qu'ils ont été battus à plate couture, c'est pas bon signe pour en plus dire « mais parce que je suis une femme, ben on est chouiné », etc. Enfin, cette chouinerie-là ne correspond pas à une psychologie de chef.
J'ai le sentiment que l'Élysée s'ajoute aussi des difficultés, parce qu'il y a quand même un cahier des charges très complet avec un certain nombre de critères.
Un
technicien, procédures législatives, un expert en service après-vente de la réforme, va falloir tenir la majorité, mener la réforme des retraites, ne pas éclipser Emmanuel Macron, incarner l'enjeu climatique. En ajoutant un genre à tout ça, finalement, on ajoute aussi on restreint les choix. Je voulais simplement vous redonner les noms des candidats potentiels, et puis je vous laisse réagir. Mais Marisol Touraine, ex-ministre de la Santé de François Hollande, Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims et ancienne porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de la primaire de la droite en 2016, et Elisabeth Borne, actuelle ministre du Travail.
On a parlé d'Audrey Azoulay aussi, qui était
également
la patronne de l'UNESCO et qui a été ancienne ministre. Je pense que ce sont des femmes estimables qui ont leur qualité, mais le peu qu'on connaisse d'Emmanuel Macron, je pense qu'il envoie des ballons-sons, d'une part, il essaye de brouiller les pistes, il aime rien tant qu'à être le fameux maître des horloges et le fameux maître des décisions, et à surprendre. Et je pense qu'il a, là, c'est une habileté politique certaine chez lui, c'est que l'effet de surprise compte, malgré tout, en politique, et on gagne du temps comme ça. Les gens n'ont pas eu le temps de se préparer et de préparer leurs flèches pour les rompre contre ceux dont ils attendent. Que voyez, par exemple, la pauvre Madame Vautrin, elle a participé à la réunion de la Manif pour tous. Donc, qu'est-ce qu'elle n'a pas dit ? Madame Tourelle, c'est une fille d'eux. Donc, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait dans son parcours, etc., etc. Donc, à chaque fois, la profession va chercher dans les biographies les failles. Et je pense que ce n'est pas de très bonne politique de lancer en pâture au milieu médiatico-politique des gens qui vont être lancés dans l'arène. Je pense qu'il vaut mieux une certaine forme de virginité. Et après, Emmanuel Macron adore surprendre. Et enfin, je ne veux pas dire non plus que les symboles en politique n'ont pas d'importance. Les symboles ont importance. Alors, si nommer une femme, c'est une manifestation de symbole, oui. Là où je m'insurge, c'est que je ne pense pas qu'une femme femme dirige mieux ou différemment d'un homme. Comme un vieux ne dirige pas différemment quand on entend le pauvre juge qui avait 25 ou 30 ans, il ne pouvait pas juger. Mais enfin, Saint-Just était déjà mort à cet âge-là. Comprenez, Alexandre de Grand avait fait la conquête du monde. Il n'avait pas l'âge de Bardella. Hein.
Gabriel Cluzel, peut-être un mot sur les profils qu'on a évoqués. Marisol Touraine, Catherine Vautrin, Elisabeth Borne, Audrey Azoulay. Voilà. Est-ce qu'il y a des profils qui vous inspirent plus là-dedans ou qui vous, en tout cas, pour lesquels vous dites, voilà, ça pourrait faire là une bonne première ministre?
Écoutez, moi, je n'en sais rien. Ce que je sais simplement, c'est qu'il faut qu'Emmanuel Macron évite les coups. Ce qu'il a fait, par exemple, avec Éric Dupond-Moretti, qui a été quand même l'erreur de casting absolue de ce quinquennat, hein, parce que finalement, là où les Français avaient besoin de plus de sécurité, ils se sont retrouvés avec un ministre de la Justice qui clairement, par tous ses symboles, pour le coup, on peut en reparler, s'est rangé ou, en tout cas, donné l'impression de se ranger du côté des délinquants. Donc, tous ces coups médiatiques, il faut s'en méfier. Alors de fait, on est en train de faire de l'archéologie pour trouver dans le profil de chacune la petite bête, ce qui ne conviendra pas.
De l'archéologie. Et... on exhume les profils Wikipédia de chacun.
Voilà, chacun scrute. Moi, il me semble que c'est pas ainsi qu'il doit procéder. D'ailleurs, in fine, c'est sans doute lui qui décidera au-delà de tout cela. C'est vraiment une forte personne. Je voulais parler d'une femme qui a beaucoup marqué son temps pendant des années. C'est Marie-France Garraud. Et à une époque où il n'était pas encore question de parité. Et c'est vrai que je crois qu'une femme peut s'imposer sans qu'on lui fasse la courte échelle.
Allez, 8h30 sur CNews et sur Europe 1, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Elisa Lukavski.
Fixer une ligne directrice et ne pas être dans l'injonction permanente. Voilà les conseils de Gérard Collomb, ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur à Emmanuel Macron. Morceau choisi d'une longue interview à retrouver ce matin sur Europe 1. De Los Angeles à New York, des dizaines de milliers d'Américains ont manifesté hier pour défendre le droit à l'avortement. 450 cortèges ont été organisés à travers le pays. La possibilité du recours à l'IVG est menacée par la Cour suprême des États-Unis, prête à revenir 50 ans en arrière après sa décision de protéger ce droit. Il restait sur 11 victoires pour son 12e combat. Tony Yoka a encaissé la première défaite de sa carrière professionnelle hier soir à l'Accor Hotel Arena de Bercy. Le champion olympique de Rio des super lourds s'est incliné face au Congolais Martin Bakole. Dépassé et impuissant, il a été battu au point.
Face à Bigot, la suite avec cette polémique qui enfle depuis deux semaines maintenant. Les piscines municipales de Grenoble vont-elles bientôt pouvoir accueillir des femmes en burkiniste? En tout cas, la volonté du maire écologiste Éric Piolle qui fait voter cette mesure demain en conseil municipal. Pour lui, il s'agit d'assurer l'égalité d'accès aux services publics. Il s'agit même, dit-il, d'un progrès social. Éric Piolle joue-t-il la carte communautaire à des fins électoralistes? Cherche-t-il à faire le buzz? Le reportage à Grenoble d'Olivier Madinier avec Adrien Spiteri.
Le burkini sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises? Le maire écologiste de la ville, Éric Piolle, doit soumettre lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait permis. Une annonce qui entraîne de nombreuses réactions dans l'opposition.
Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes, et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
Face à la polémique, Éric Piolle a répondu, il évoque un non-sujet.
Nos piscines découvertes ouvrent en juin, et donc on voulait que ce règlement de piscine, nous voulons que ce règlement des piscines puisse s'appliquer dès le 1er juin. C'est tout simple. Et plutôt que ces polémiques stériles, moi, je préférerais qu'on parle des vrais sujets qui vraiment préoccupent les gens.
Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
Personnellement, ça ne me dérange pas.
J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements.
Pourtant, le burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. 13 élus écologistes envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
Guillaume Bigot, Éric Piolle, il nous dit c'est un non-sujet. En fait, depuis plusieurs semaines, on a quand même le sentiment qu'il en fait son affaire personnelle. Il répond à toutes les sollicitations des médias, il est partout pour en parler. Bon, ça ressemble quand même à un gros coup de pub tout ça.
Il est à la tête d'une ville quand même assez importante. Il a été élu sur un programme d'écologie, un programme social, mais sa première priorité est de savoir si on peut nager seins nus, nager peut-être en combinaison de ski intégrale ou nager en combinaison, enfin un petit uniforme islamiste dans sa piscine.
Alors ça c'était pour le sarcasme.
Donc il vous assure que ça n'a aucun rapport, évidemment, avec l'islamisme, c'est probablement pour se protéger du soleil. Donc de quoi s'agit-il d'un classique, c'est-à-dire il a deux dimensions, la dimension un peu, je dirais, Andy Warholienne, c'est-à-dire je vais devenir le personnage dont on parle pendant 5 minutes. Dans les traces de Madame Rousseau, c'est-à-dire une ineptie tous les quarts d'heure, je dégoupille une grenade, je la jette dans une salle de rédaction et je vois le résultat que ça donne. Plus c'est énorme, plus je profère des énormités et des contre-vérités, des paradoxes, et plus, évidemment, ça va susciter la polémique, surtout dans un pays où on a une très très vieille habitude de se diviser en deux camps, les pour, les contre.
Ça va être et qu'est-ce que ça préfigure semaine, qu'est-ce que ça préfigure
c'est
du rôle qui va...
En fait, tout le monde va se battre à la fin, pour, contre, etc.
Qu'est-ce que ça préfigure du rôle que Éric Piolle entend jouer dans les années qui viennent au sein de la gauche écologiste?
D'abord qu'il faudrait qu'il s'intéresse à la gauche, aux questions sociales et à l'écologie. En attendant, il peut peut-être jumeler sa ville avec Kaboul ou faire un stage peut-être de réhabilitation auprès des innombrables femmes qui ont été, à qui on a acheté de l'acide, par exemple, en Iran, parce qu'elles ne veulent plus cette oppression du voile. Peut-être que ça pourrait, l'État pourrait lui payer un stage de réhabilitation et de retour dans le vrai monde. Je pense que c'est un peu ironique. Évidemment, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que, comme Caroline De Haas, dont j'ai lu le tweet insensé et incendiaire, honte à tous les racistes qui instrumentalisent le féminisme pour justifier inégalité et discrimination. C'est très difficile de compter les absurdités. Je rappelle à cette dame que l'islam n'est pas une race. Donc on peut être de toutes les races et être musulman. Donc ça n'a rien avec du racisme. Le féminisme, c'est, je les renvoie donc à ces millions de femmes musulmanes qui essayent de s'émanciper de ce marqueur, qui est un marqueur de l'infériorisation de la femme. Alors on dit par l'islamisme, c'est vrai, mais on n'ose pas le dire. Moi j'ose le dire, ça ne me dérange pas. Je reviens d'un séjour avec des amis au Maroc, on a beaucoup discuté, y compris de sujets religieux. S'il faut discuter avec les musulmans de sujets religieux, ça ne pose pas de problème. Mais en fait, au bout d'un moment, l'imam vous dit, bah oui, c'est comme ça, pour nous en islam, une femme vaut la moitié d'un homme. D'ailleurs, quand elle hérite, elle n'a que la moitié de la part. Donc il faut une sacrée dose de tartufferie ou d'envie de collaboration, ou d'envie de soumission SM, pour que ces gens-là se mettent au service, je dirais même pas seulement de l'islamisme, de l'islam.
Bon, Gabriel Cluzel, est-ce que vous avez le sentiment aussi que, Éric Piolle joue aujourd'hui la carte communautaire à des ambitions électorales?
Oui, c'est évident, mais au-delà de l'heure de célébrité personnelle d'Éric Piolle, il y a le problème des écologistes. De façon générale, ils ont bien choisi la couleur verte, hein, mais c'était pas pour les feuilles des arbres, c'était la couleur de l'islam en réalité, parce que ils font vraiment une cour effrénée, une drague lourde à l'endroit de cette population d'origine immigrée dont ils espèrent avoir un gain électoral. Hein. On se souvient de Grégory Doucet à Lyon qui n'a pas voulu participer au vœu des échevins, un vœu vraiment immémorial, qui est très traditionnel, où les édiles offrent les clés à la Vierge. Alors il a dit, oh là là, ça c'est une atteinte à la laïcité. En revanche, rompre le jeûne, là, ça c'est pas grave. Donc il y a un vrai sujet. On se souvient aussi de la mosquée à Strasbourg, et qui n'est pas seulement un sujet féminin, parce que évidemment, ça, nous sommes tous d'accord, l'épanouissement du voile islamique dans un pays est inversement proportionnel à la condition féminine. Hein. Je vous mets au défi de me trouver un exemple. C'est une trahison féministe d'ailleurs, parce que si vous prenez les bouquins de Benoît de Groult, hein, ainsi soit-elle, elle a des mots à l'endroit de l'islam extrêmement durs, elle cite Renan. Je doute fort qu'une Alice Coffin ou une Caroline de Haas.
Ce qui veut pas dire que de bonne foi, des jeunes filles ne veulent pas porter le voile pour provoquer.
Non, mais c'est. Mais il n'y a pas qu'une question féministe, c'est-à-dire que.
Si vous voulez, voilà.
C'est faux de dire qu'un bout de tissu est équivalent à un autre bout de tissu. Un drapeau, par exemple, ce n'est pas un bout de tissu anodin. Eh bien là, c'est un étendard. C'est un étendard, ça fait partie. D'ailleurs, les frères musulmans l'ont écrit. Alors pourquoi ne pas les croire? C'est un étendard, et quand on plante un étendard sur un lieu, eh ben, ça veut dire qu'on l'a conquis. Donc Éric Piolle fait la courte échelle à ceux qui souhaitent instaurer l'islamisme chez nous, c'est évident.
Allez, on avance. L'Ukraine qui affiche son optimisme face à la Russie autour de Kharkiv dans l'est du pays. La situation semble avoir basculé. Les troupes russes ont dû se retirer de plusieurs localités. Cela fait dire aujourd'hui au chef du renseignement ukrainien que la guerre va connaître un tournant au mois d'août et la Russie une défaite avant la fin de l'année. Le récit avec Alexis Vallée.
pilonnés à distance par les Russes, les forces ukrainiennes nettoient les villages repris au nord de Kharkiv. Les fantassins sécurisent maison par maison, vérifiant qu'aucune présence ennemie n'a été laissée sur place. Après des semaines de bombardements russes intenses, le front s'apparente à présent à une guerre de position.
Nous sommes d'un côté, les Russes de l'autre. Entre nous, il y a une zone grise que personne ne veut risquer de traverser. La guerre est passée à un autre niveau. Des combats d'artillerie à distance, nous leur tirons dessus, ils tirent sur nous.
Les Ukrainiens ont brisé le siège de Kharkiv. Ils mènent à présent une contre-attaque contre les forces russes.
Je suis reconnaissant de l'action menée par tous les hommes et toutes les femmes qui tiennent les lignes de front. Pas à pas, nous forcerons les occupants à quitter nos terres. Nous les forcerons également à quitter la mer ukrainienne.
Plutôt que des prisonniers, ce sont surtout des cadavres russes que récupèrent les forces ukrainiennes. 41 rien qu'hier. Mais leur rapatriement dans leur pays d'origine n'est pas prévu, car aucun accord officiel n'a été convenu.
Guillaume Bigot, est-ce qu'on peut imaginer une victoire ukrainienne d'ici la fin de l'année face à la Russie ?
J'ai pas de boule cristal, je peux pas vous répondre à cette question vraiment. La seule chose que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est d'être extrêmement... Et nos auditeurs, bien sûr, d'Europe 1, qu'on salue. Il faut être extrêmement vigilant à l'égard de ces informations militaires. D'abord parce que nous sommes dans un camp et pas dans un autre. Je conseille d'ailleurs les uns et les autres d'écouter la propagande adverse. C'est pas du tout le même son de cloche. En fait, à mon sens, les informations... Vous voyez, prenons par exemple le décompte des pertes. Le décompte des pertes russes. On en a, en Occident, une idée assez claire. Le décompte des pertes ukrainiennes, on ne le sait pas. Alors, les Russes l'évaluent probablement de manière très exagérée aussi, un peu comme les Ukrainiens évaluent probablement de manière un peu exagérée les pertes russes. C'est très complexe. Cette affaire de Kharkiv, en fait, il y a sans cesse des reculs et des avancées. Le gros de la bataille du Donbass se déroule en fait dans un mouvement de pinces qui est, si on avait une carte, on regarderait, qui est une force russe qui descend du sud et une force russe qui descend du nord, pardon, et une force russe qui monte du sud. D'après les spécialistes dont je ne suis pas, le temps militaire n'est pas le temps médiatique, d'autant qu'il y a là des forces qui sont très lourdement armées et très lourdement retranchées. Donc pour avancer et pour atteindre les objectifs, il est beaucoup trop tôt, sincèrement, pour dire que oui, c'est le signe d'une contre-offensive du côté de Kharkov, qui, savez, qui est au nord de cette zone Donetsk-Louhansk, et qui finalement donne l'indication, un signal de renversement de situation. C'est très compliqué d'interpréter ça comme ça. On pourrait avoir on a envie, bien sûr, que les Ukrainiens se libèrent, mais on pourrait avoir vraiment de graves déceptions, parce que les forces en présence russe, d'abord, ce que j'ai compris, c'est qu'elles sont relativement faibles. Et comment interpréter ça ? Il y a 150 000 hommes, les spécialistes disent 150 000 hommes, pour prendre le terrain qu'ils voulaient prendre. Alors, je ne parle même pas de la phase 1, où il fallait prendre toute l'Ukraine, mais même là, les zones du Donbass et du Sud-Est, c'est très faible. Comment l'interpréter ? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus de réserve derrière vraiment opérationnelle du côté des Russes ? Est-ce que ça signifie qu'il y a un blocage politique pour ne pas déclencher juridiquement de mobilisation générale, pour ne pas avouer qu'ils sont en guerre ? Tout ça est assez difficile et très complexe à analyser.
Je vous cite l'Institut américain d'études de la guerre. « L'Ukraine et ses partenaires occidentaux ne disposent probablement que d'une fenêtre d'opportunité réduite pour appuyer une contre-offensive dans les territoires occupés. Vladimir Poutine entend probablement annexer le sud et l'est de l'Ukraine dans les prochains mois. » Gabriel Cluzel.
Oui, je rejoins Guillaume Bigot, c'est très difficile de se faire une idée juste, parce que à chaque fois qu'il y a une guerre de ce type, voilà, l'information tourne à la propagande dans les deux camps, évidemment, et c'est un peu la méthode Coué. On veut garder le moral des troupes, mais ça peut être aussi...
Lourds, hein,
exactement, mais ça peut être un piège aussi, on l'a vu, ne serait-ce que dans la guerre de 14, hein, chacun partait la fleur au fusil en se disant on va les ratatiner très vite, et puis on sera rentré pour les vendanges, et finalement, ce n'est pas ainsi que ça s'est passé. Moi, j'avoue humblement que je n'ai pas les connaissances nécessaires de terrain pour juger, mais il faut être extrêmement prudent. Alors, on peut imaginer que l'Ukraine, qui apparaît comme très combative et qui est armée quand même par nous autres, hein, il faut
par
bien le dire,
peut
durer longtemps. Mais le vrai sujet, ça va être comment éviter de les uns et les autres, par effet domino, je parlais de la guerre de 14 justement, comment éviter nous aussi de rentrer dans cette guerre de façon, là nous avons déjà un pied, de mettre le deuxième, parce qu'évidemment ce serait dramatique et plus elle dure, plus le risque est grand. Donc là, je crois que c'est vraiment le point de vigilance absolu. Je vois que le président Zelensky, et il joue sa partition, il essaie de titiller Emmanuel Macron en le traitant à la fois à demi-mot de lâche et d'incapable, hein, c'est un peu ça, pour le forcer à entrer en guerre, et je crois que c'est un écueil qu'il faut absolument éviter.
L'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie, ce sont les mots du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov. Avant de vous interroger là-dessus, il est quasiment 8h45 dans votre matinale week-end, c'est l'heure du rappel de l'actualité, et c'est avec vous Elisa Lukavski.
La Finlande doit officialiser sa candidature à l'OTAN ce dimanche. Une réunion décisive du parti au pouvoir en Suède doit également se tenir pour une probable demande d'adhésion commune. Des deux pays, selon Vladimir Poutine, adhérer à l'OTAN serait une erreur puisqu'il n'y a aucune menace à la sécurité de la Finlande. Fin de citation. Alors qu'on attend toujours de connaître l'identité du futur chef du gouvernement et qu'une femme est pressentie à ce poste, Edith Cresson s'exprime dans les colonnes du journal du dimanche. Celle qui a été l'unique femme première ministre en France dénonce le machisme de la classe politique et souhaite du courage à la possible prochaine locataire de Matignon. Du foot avec l'avant-dernière journée de Ligue 1 et le PSG qui se reprend après une série de 3 matchs nuls. Victoire nette 4-0 face à Montpellier hier soir avec un doublé de Lionel Messi, un but de Di Maria et un autre signé Mbappé sur pénalty. La dernière journée, samedi prochain, opposera le champion de France à Metz.
Alors vous le disiez, Guillaume Bigot, il faut écouter ce que dit chaque camp. Et Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.
Et en prendre, en laisser, hein, ne pas prendre.
Bien sûr, voilà, et pouvoir et commenter, et voilà, commenter, critiquer, analyser en tout cas. L'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie, c'est ce que dit donc le ministre russe des Affaires étrangères. Il dénonce également une vague russophobe dans les pays occidentaux qui, selon lui, néglige la politesse, les normes de droit et annule tout ce qui est russe. On écoute le ministre russe des Affaires étrangères.
L'Occident nous a déclaré une guerre hybride totale. Et il est difficile de savoir combien de temps cela va durer. Mais il est clair que les conséquences seront ressenties par tout le monde, sans exception. Nous avons tout fait pour éviter un affrontement direct. Mais maintenant que le défi est lancé, nous l'acceptons, bien sûr.
Alors là, pareil, j'imagine qu'il faut prendre des pincettes, mais est-ce qu'on est en guerre avec la Russie? Est-ce que l'Occident est en guerre avec la Russie, comme le dit Sergueï Lavrov?
Aujourd'hui, tout de suite et maintenant, oui, c'est une guerre multifacette. De toute façon, les guerres contemporaines le sont.
Mais est-ce qu'elle est totale et hybride, comme le dit
Sergueï Lavrov? Regardez l'Eurovision, c'est du soft power.
On va en parler dans un instant.
Les sanctions primaires, secondaires, etc., c'est de la guerre, la poursuite de la guerre par des moyens économiques. Regardez la flambée d'europhobie qui est allée de manière très imbécile, d'ailleurs, jusqu'à débrancher le Bolchoï, à débrancher des concerts de Rachmaninov, les pauvres aussi Rachmaninov, avec un rapport avec Vladimir Poutine. Enfin bon, on a eu aussi ce qu'on appelle la guerre hybride. Il faut définir les termes. La guerre hybride, c'est la guerre multifacette. Donc la guerre qui implique des moyens économiques, qui implique des moyens culturels, qui implique des moyens informatiques, des cyberattaques, etc. Alors les cyberattaques russes, on en entend parler. On entend parler un peu aussi parfois des cyberattaques, disons, israéliennes contre l'Iran. On entend assez peu parler de nos cyberattaques en Russie ou des cyberattaques américaines en Russie. Je ne doute pas qu'elles existent. Et enfin, il y a un point important, c'est ce qu'on appelle les fameux proxys. Alors les proxys, qu'est-ce que c'est? C'est vous ne faites pas la guerre directement. Au Donbass, par exemple, ils ont envoyé ce qu'ils appelaient les petits hommes verts, les Russes, en 2014. Donc officiellement, ce n'est pas du tout l'armée russe qui est rentrée au Donbass pour soutenir les séparatistes pro-russes. Ce sont des gens sans uniforme. pas nécessairement les Wagner, sont venus un peu plus tard. Les Wagner, les milices Wagner, c'est typiquement le cas. Mais ces proxys, attention, dans la guerre, par exemple, contre Daesh, hein, bah, l'Occident a utilisé massivement les proxys. Alors, les premiers proxys, c'était les Kurdes. On s'est battu par Kurdes interposés et on s'est également battu. Il y a des officines qui ne sont pas plus glorieuses que Wagner, hein, Black Waters, etc. Moi, je vous enfin, entre être prisonnier par Black Waters ou prisonnier par Wagner, je ne sais pas quel est le meilleur sort qui va vous être.
Quand Sergueï Lavrov nous dit l'Occident a déclaré la guerre totale et hybride à la Russie, il s'adresse.
On n'est pas des tisons, on fait la même chose qu'eux, en fait.
Il s'adresse aux Occidentaux ou il s'adresse à la population russe, justement ?
Les deux. Mais il s'adresse, je pense, non seulement à la population russe, il veut dire que les Occidentaux qui se drapent dans des principes moraux, etc., en réalité, sur le terrain, sont capables aussi de coups fourrés, Maïdan. En plus, ça n'intéresse absolument personne parce que les réalités qui n'intéressent pas, c'est la lettre volée d'Oscar Wilde. En fait, si vous avez quelque chose sous le nez, mais que vous n'avez pas envie de le voir, alors vous ne le voyez pas. Mais en fait, les écoutes existent, les Pandora Papers existent, etc. Donc on a bien les Américains qui, pendant le Maïdan, monitorent Maïdan depuis les États-Unis, monitorent et donnent des instructions aux membres du gouvernement et de la Rada ukrainienne, et toutes les informations, toutes les preuves sont disponibles. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'on ne veut pas voir les lunettes qu'on a sur le nez. Donc oui, les États-Unis se sont ingérés de manière massive, ont chassé un gouvernement qui avait été élu en Ukraine pour en remplacer un à leurs mains et de manière assez violente en manipulant des organisations d'extrême droite. Ça n'exhorte pas n'exonère en rien Poutine qui lui fait la même chose de toute façon. Lui aussi, il manipule, si vous voulez. Là où je pense qu'il faut sortir de Disneyland, c'est que nous n'avons pas les bons contre les méchants. Nous avons des intérêts géostratégiques féroces avec deux puissances qui sont féroces, le pitbull américain et le pitbull russe, et qui ne se feront aucun cadeau et qui se saigneront jusqu'au dernier.
Gabriel Cluzel, en quelques mots, très rapidement.
Oui, alors, il dit l'Occident nous a déclaré la guerre. Bon, on va poser quand même les choses. Le premier à avoir déclaré une guerre dans ce paysage géopolitique, c'est Poutine. Mais cela
après,
étant posé, il y a une
après
forme...
Après que les Ukrainiens aient massé des troupes. Hein.
Exactement. Mais Gabriel c'est Cluzel. Vrai, mais voilà, pour remettre les choses dans leur perspective. Mais cela étant, les Occidentaux veulent faire la guerre sans faire la guerre, tout en faisant la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas s'engager humainement, mais néanmoins, ils font en
frôlant la co-belligérance systématiquement.
Qui frise évidemment l'hypocrisie. Et puis, il faut rappeler que ce discours a été alimenté par Ursula von der Leyen elle-même, puisqu'elle a dit Poutine remet en cause l'ordre mondial. Donc, elle semble dire que elle est l'incarnation avec l'Occident de l'ordre mondial et qu'il y a Poutine face à eux. Donc c'est l'Occident, enfin le Poutine contre le reste du monde qui serait symbolisé par l'Occident, ce qui est déjà un peu un hubris extrêmement fort parce qu'il y a autre chose que l'Occident et qui peut-être Allez. Aussi s'intéresse à la question russe et pas de la façon qu'on imagine.
Pour finir, je voudrais vous faire écouter cette chanson. C'est l'Ukraine, hier soir à l'Eurovision, elle a remporté le concours. Une victoire symbolique de l'Ukraine, évidemment. Guillaume Bigot, peut-être un mot là-dessus, il nous reste quelques secondes véritablement, mais ça rappelle aussi à quel point ce concours de chant est politique.
Bien sûr, c'est deux commentaires très brefs. Le premier, c'est que ça commence comme une chanson traditionnelle assez poignante ukrainienne et ça finit en rap à la mode Bronx ou Los Angeles. Donc là, si vous voulez, pour la propagande russe, c'est du sucre. Parce que là, si c'est pour montrer que l'Ukrainienne s'est fait laver le cerveau par le soft power américain, c'est réussi. Bon, deuxième commentaire, ce sont des jeunes gens, on peut penser ce qu'on veut de leur musique, qui sont très courageux. Parce que après avoir fait ce tour de chant, ce sont pas, si vous voulez, les donneurs de leçons qu'on a de ce côté-ci de l'Europe. Qui depuis leur villa à Los Angeles disent faites ci, faites ça, etc. Eux, ils chantent, mais ils ont été combattre après.
Allez, le grand rendez-vous, c'est à 10h.
Leur courage mérite d'être souligné.
Le grand rendez-vous, c'est à 10h sur CNews et Europe 1 avec Sonia Mabrouk. On va tout de suite retrouver Sonia Mabrouk, justement. Bonjour. Qui sont vos invités, Sonia, aujourd'hui ?
Bonjour à vous Anthony et bonjour à tous. On a aujourd'hui deux invités aux convictions diamétralement opposées pour un grand rendez-vous très politique. Tout d'abord, l'ancienne ministre et la députée européenne Nadine Morano. Et puis juste après, ce sera le coordinateur de la France Insoumise et cheville ouvrière de ce que l'on appelle maintenant la NUP. Ce sera Adrien Quatennens.
Alors, programme chargé, sur quel thème vous allez les interroger Sonia?
Effectivement, très chargé. La une du JDD, vous en parliez avec Gabriel Cluzel et Guillaume Bigot. On va parler de la future nomination du Premier ministre, une femme. Qu'en pense Nadine Morano? Puis Adrien Quatennens, nous partirons aussi sur une semaine mouvementée hein, pour la NUP, avec notamment l'affaire Tahabouaf qui embarrasse beaucoup Jean-Luc Mélenchon.
Merci à vous Sonia, je le rappelle. On vous retrouve à 10h pour le grand rendez-vous CNews, Europe 1, Les Échos. À tout à l'heure. Il est temps pour moi de vous remercier aussi autour de la table. Gabriel Merci. Cluzel et Guillaume Bigot. Vous restez avec nous d'ailleurs, Guillaume Bigot, pour la suite de la matinale week-end sur CNews. Et pour nos chers auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Taddeï.
Merci Anthony Favalli. Bon dimanche à vous et bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour Thierry Dagiral.
Dans un instant, c'est arrivé demain le programme.
Les conséquences en Chine et dans le reste du monde de la politique zéro Covid du gouvernement chinois. On va voir ça avec Antoine Bondaz. La cancel culture avec Pierre Vasperini. Et Marie-Thérèse Walter, le grand amour caché de Picasso, avec Brigitte Benkemoun qui vient de sortir sa biographie.
A tout de suite Frédéric. À suivre le journal de 9h, un nouveau ou une nouvelle Premier ministre dans les prochaines heures. Manifestation pro-IVG aux États-Unis. Et puis la moto, c'est au Mans cet après-midi. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1. Hein.